Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny. Benoît XVI, ce dimanche, nous a parlé de Jean le Baptiste, une autre figure qui nous annonce Jésus comme Marie. En s'adressant aux pèlerins français lors de l'Angélus, le pape a lancé un appel pour qu'en cette période de l'Avent, on puisse penser aux migrants pour qu'une solidarité fraternelle puisse leur venir en aide. Après la polémique créée par Cécile Duflot, la ministre française du Logement, nous parlerons dans ce magazine du patrimoine immobilier des congrégations religieuses. Enfin, nous retrouverons Sœur Catherine Aubin et son invité du dimanche, deuxième partie d'un entretien avec le cardinal Philippe Barbarin, l'archevêque de Lyon. Benoît XVI, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous a parlé dans sa catéchèse pour l'Angélus de midi, place Saint-Pierre, d'une figure qui prépare à la venue de Jésus, Saint Jean-Baptiste. Vendredi, il nous a parlé de Marie, en la solennité de l'Immaculée Conception. Ce dimanche, donc, Jean le Baptiste, Thomas Chabol.
Le pape est parti de Saint-Luc pour nous parler de la figure de Jean-Baptiste, car elle apparaît différemment chez lui par rapport aux autres évangélistes. S'il est considéré chez les autres comme un précurseur de Jésus, Saint-Luc, lui, place bien avant dans le temps la connexion entre les deux hommes et leurs missions respectives. Dès la conception et la naissance, nous dit Luc, Jésus et Jean le Baptiste sont mis en rapport entre eux, ce qui nous aide à comprendre qu'il est non seulement le dernier des prophètes, mais qu'il prépare les hommes au culte spirituel de la nouvelle alliance inaugurée par Jésus. Saint Jean-Baptiste a dès lors un rôle important, mais toujours en fonction du Christ. Saint Augustin nous dit ainsi, Jean est la voix. Et du Christ, il nous dit, au commencement était le Verbe. Jean est la voix qui passe, le Christ est le Verbe éternel qui était dès le commencement. Si à la voix on enlève la parole, que reste-t-il ? S'interroge le pape. Avant de répondre, juste un vaccin. La voix sans la parole frappe l'oreille, mais n'édifie pas le cœur. Il nous est donc demandé aujourd'hui d'écouter cette voix pour faire de la place et accueillir dans nos cœurs Jésus, la parole qui sauve. En ce temps de l'Avent, déclarait encore le pape, préparons-nous à voir avec les yeux de la foi le salut de Dieu dans l'humble grotte de Bethléem. Dans notre société de consommation, nous sommes tentés de chercher la joie dans les choses. Jean le Baptiste nous enseigne à vivre de manière essentielle, afin que ce Noël soit vécu non seulement comme une fête extérieure, mais comme la fête du Fils de Dieu qui est venu porter aux hommes la paix, la vie et la vraie joie.
Et Benoît XVI n'a pas manqué, comme à son habitude, de s'adresser aux pèlerins francophones, leur lançant un appel en faveur des immigrés en cette période de l'Avent.
Chers pèlerins francophones, l'Avent nous invite à aller à la rencontre du Seigneur et donc à nous mettre en route. Cette réalité bien familière aux personnes obligées de quitter leur région pour différentes raisons, dont les guerres ou la pauvreté. Les migrants connaissent la précarité et rencontrent souvent peu de compréhension. Puissent-ils être accueillis et avoir une existence digne ? En ce temps préparatoire à Noël, qu'une solidarité fraternelle et joyeuse vienne en aide à leurs besoins et soutienne leur espérance. N'oublions pas que tout chrétien est en route vers sa vraie patrie, le ciel. Le Christ est le seul chemin que la Vierge Marie, qui a connu le voyage et l'exil, accompagne notre marche. Bon dimanche à tous.
Je souhaite faire appel à toutes les bonnes volontés et faire appliquer la loi à tous ceux qu'elle concerne. Par exemple, il semble que l'archevêché de Paris possède des bâtiments quasi vides. Ces propos tenus par Cécile Duflot, ministre du Logement, et parus dans le quotidien Le Parisien lundi 3 décembre, ont suscité, on le sait, l'indignation de nombreux catholiques et ont relancé le débat autour des biens de l'Église et ceux des congrégations religieuses. Ces dernières sont en effet détentrices d'un important patrimoine immobilier, lequel abrite leur communauté et leurs œuvres. Certains n'hésitent pas à parler de milliers de mètres carrés de bâtiments inoccupés qu'il serait bon de réquisitionner. Mais la réalité s'avère beaucoup plus nuancée. Écoutez Jean-Pierre Longeat, abbé de l'abbaye bénédictine de Ligugé et président de la COREF.
Ce patrimoine immobilier est lié à l'histoire, puisque souvent les congrégations ont une longue histoire, qu'elle soit de un siècle ou de plusieurs siècles. Et donc, il y a souvent l'héritage de cette histoire qui donne des bâtiments qui sont d'ailleurs pas toujours très commodes et pas toujours faciles d'entretien. Certains peuvent être classés, mais la plupart sont à la charge complète des congrégations. C'est vraiment un héritage qui, à la fois, est précieux et qui, en même temps, est lourd à porter. Ça, je crois qu'on peut le dire. Malgré toutes ces conditions, on pourrait les dire, d'occupation des bâtiments, je crois que les congrégations, comme les autres institutions, ont à se rendre sensibles au fait qu'une partie de la population française doit être aidée dans cette période d'hiver. Donc si jamais il y avait des bâtiments vacants, il est bien évident que les congrégations se montreraient ouvertes à la possibilité que ces bâtiments puissent être relayés dans des conditions précises et qui ne reposent pas uniquement sur la bonne volonté de quelques personnes qui se rendraient disponibles et puis sous la bonne volonté financière des congrégations qui auraient assumé la charge de cet accueil, mais se rendraient en tout cas accueillantes et ouvertes au fait qu'il puisse y avoir une activité sociale dans ces bâtiments.
Alors, à quoi servent ces bâtiments ? Comment sont-ils utilisés ?
Alors, à quoi servent les maisons religieuses? Comment sont-elles organisées? C'est très divers. Les congrégations peuvent être des congrégations, certaines, vieillissantes et en difficulté, dans des bâtiments un peu imposants, mais qu'elles ont souvent veillé à reconvertir, soit en foyer d'accueil pour des étudiants, soit en maison de retraite ou des choses de ce genre, ou en maison d'accueil spirituel. Il y a peut-être une ou l'autre situation plus délicate avec des bâtiments de fonctionnement qui sont un peu sous-occupés, mais sans être pour autant complètement disponibles aussi. Alors ensuite, il y a toutes les congrégations qui vivent à plein leur charisme et qui ont vraiment l'usage de leurs bâtiments pour leurs œuvres, que ce soit des œuvres éducatives, des œuvres de santé, des œuvres sociales de toutes sortes. Enfin bon, et je crois que là, malgré un patrimoine très très riche, les bâtiments sont vraiment en usage avec une souplesse de relation avec beaucoup d'autres organismes.
Des propos recueillis par Manuela Fidji. Retrouvons à présent Sœur Catherine Aubin et son invité du dimanche. Deuxième partie d'un entretien avec le cardinal Philippe Barbarin, l'archevêque de Lyon. Interrogé par Catherine Aubin, il explique sa devise de cardinal, qu'il soit un. Puis il commente pour nous la lettre qu'il a adressée à son diocèse et qui s'intitule « L'Église est une servante ». En effet, alors que l'Église catholique fête le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, il nous explique comment le diocèse de Lyon conclut un parcours de 3 années intitulé « Servir l'homme tout entier, corps, âme et esprit ». Après sa première lettre pastorale, publiée en 2006, « Suivre Jésus de près », l'archevêque de Lyon livre ici en toute simplicité les orientations qu'il propose. Né en 1950 à Rabat, prêtre en 1977, Philippe Barbarin est archevêque de Lyon depuis septembre 2002. Nommé cardinal par Jean-Paul II l'année suivante, il est membre d'une congrégation romaine et fait également partie de la commission doctrinale des évêques de France. On l'écoute.
Père Philippe Barbarin, vous avez 2 devises. La première, en tant qu'archevêque de Lyon, qu'il soit un, et la seconde, en tant que cardinal, toi, suis-moi. Est-ce que ces 2 devises, Père Philippe Barbarin, sont un peu comme le fil rouge de votre vie jusqu'à aujourd'hui ?
Lorsque j'ai été consacré évêque, donc j'ai été nommé évêque de Moulins en 1998, et là on doit choisir une devise. Mon principe, c'était, je voulais une parole de Jésus, dite par Jésus, dans l'ensemble du mystère pascal. Ça, c'était vraiment mon but, parce que c'est le mystère pascal qui sauve le monde, et je voulais, à l'intérieur de toutes ces paroles de la passion, de la résurrection, un mot de Jésus. J'avais beaucoup d'idées, et c'est dans la discussion avec une religieuse contemplative, m'a dit quand même, le cœur du cœur, c'est « ut unum sint », parce qu'on voit bien que c'est l'intention majeure de Jésus dans sa propre prière. Donc c'est une parole de Jésus, non pas qu'il l'adresse à un tel ou à un tel, mais c'est une parole qu'il adresse à Dieu. Au cœur du mystère pascal, c'est donc vraiment le cœur du cœur chez Jésus. Et on voit bien que c'est son intention essentielle. Moi, j'ai longtemps été délégué diocésain à l'écuménisme, et je me suis dit « ah bah oui, ça c'est vraiment la volonté première de Jésus, qu'il soit un ». Donc j'ai choisi ça comme devise épiscopale. Mais c'est vrai que j'avais un petit faible pour une parole de Jésus dite à Pierre, parce que j'aime bien Pierre. Et parce que Pierre, il est à la fois solide, droit, franc, nature, si vous voulez, et en même temps faible. Alors d'une certaine manière, ça nous désole qu'il ait trahi Jésus, mais aussi ça nous console, parce que nous aussi, parfois, on a été infidèles ou lâches. Et donc, on voit que malgré nos faiblesses, Jésus nous reprend en main, nous pardonne, nous couvre de sa miséricorde, nous redonne notre mission dans sa plénitude, dans toute sa force, et que Pierre retrouve tous ses moyens dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, il est à l'intérieur de lui perpétuellement dans le repentir, et en même temps, il est d'une force, d'une clarté, d'une audace, d'une assurance, dit le texte des Actes des Apôtres. Et voilà que quelques années plus tard, j'étais nommé cardinal. Alors je me suis dit, celle à côté de laquelle j'hésitais, bah c'est vraiment le moment. Parce que dans le fait d'être nommé cardinal, on est associé au ministère de Pierre. On appartient au clergé romain, on fait un, si on peut dire, avec le successeur de Pierre. À ce moment-là, je me suis dit, elle vient bien cette deuxième devise. Quand Jésus dit à Pierre, oh, d'accord, je sais que tu es lamentable, mais rassure-toi, ma miséricorde est plus forte que toutes les faiblesses et tous les péchés du monde. Toi, suis-moi. Ça vient après une question où Pierre a le sentiment d'être profondément indigne. Il se tourne, il voit derrière lui le disciple que Jésus aimait, qui avait été fidèle à la croix, fidèle tout le temps, alors que lui avait trahi. Et on a l'impression qu'il dit à Jésus, t'es sûr que tu te trompes pas, que t'aurais pas dû choisir lui? Et lui? Et là, Jésus lui fait cette réponse assez mystérieuse. S'il me plaît, qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, toi, que t'importe. Toi, suis-moi. Et là, cette forte phrase de Jésus, eh ben, je l'ai trouvée très bonne dans ce nouvel aspect de mon ministère.
Parmi justement votre aspect du ministère, vous êtes à Lyon, vous venez d'écrire une lettre. L'Église est une servante, vous venez de parler de Pierre. Est-ce que ce n'est pas justement ce que Pierre a compris?
Pour répondre à votre question, j'irai ma première lettre pastorale, 3-4 ans plus tôt, c'était « Suivre Jésus de près ». Alors ça, c'est une devise très lyonnaise du Père Chevrier, le bienheureux Père Chevrier. Et c'est un saint, le fondateur du Prado, très intéressant par son amour incroyablement précis de l'évangile de Jésus qu'on va essayer de suivre de près. Voilà. Bon, quand on est des chrétiens, on n'a qu'à suivre le Christ. Voilà. La caractéristique du chrétien, c'est que leur nom est configuré à celui du Christ. Et la seconde, donc c'est tout ça, nous le vivons en Église. Donc il était logique qu'après avoir parlé du Christ, je parle de l'Église. Et je voyais se profiler le 50e anniversaire du Concile Vatican II. Alors, dans le Concile Vatican II, vous avez une perle extraordinaire qui est arrivée avec Dei Verbum. Et puis, après, il y a cet ensemble des deux constitutions que souvent on oppose, car elles sont d'ailleurs de nature différente, constitution dogmatique, constitution pastorale, Lumen Gentium et Gaudium et Spes, qu'à mon avis, il ne faut jamais opposer. L'une va traverser les siècles parce qu'elle parle du mystère de l'Église, puisque c'est le Christ qui est la lumière du monde, et l'autre, au contraire, de l'Église au charbon, si je puis dire, c'est-à-dire dans le concret de la vie quotidienne, l'Église dans le monde de ce temps. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, Gaudium et Spes? Ça veut dire, si vous êtes dans le monde de ce temps, vous devez servir les hommes de ce temps pour qu'ils se sachent aimés par Dieu, pour que l'amour du Christ sauveur du monde arrive jusqu'à eux. Donc la caractéristique, alors moi j'ai essayé de rassembler les deux, à travers ce mot, l'Église est une servante. Autrement dit, le plus beau titre de Jésus, c'est le serviteur. Il est le serviteur avec un S majuscule, il se met aux pieds des apôtres pour leur laver les pieds comme un esclave. Vous savez comment Pierre réagit, il n'aime pas du tout cela. Et Jésus se lève et il dit, vous m'appelez le maître et le seigneur et vous avez raison car je le suis. Si moi, le maître et le seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est afin que vous vous lavez les pieds les uns aux autres. Et donc l'Église, si elle est vraiment le corps de Jésus, si elle est vraiment l'épouse du Christ, elle doit être une servante. Et donc mon désir, c'était de montrer comment l'Église doit être une servante du Christ, de Dieu, dans la liturgie, dans la louange, et ensuite se mettre aux pieds des hommes pour être son esclave ou sa servante. Alors j'ai proposé un parcours en 3 ans. Dieu veut sanctifier l'homme tout entier, son corps, son âme et son esprit, dit l'Épître aux Thessaloniciens. Et Dieu, quand il est venu chez nous, c'est Jésus, et il a été le serviteur du corps, regardez le nombre de lépreux, de malades, de paralytiques qu'il a guéri. De l'âme et de l'intelligence, le temps qu'il a mis à les enseigner, ils étaient là comme des brebis sans pasteur et il se mit à les enseigner longuement. Et de l'esprit, il a chassé les démons, il a pardonné les péchés, etc. etc. Alors j'ai proposé un chemin de 3 ans, une année du corps, pour voir comment on devait évangéliser notre propre corps et parler de la nourriture et du sport, de la sexualité, de la maladie, etc. À chaque année, un sacrement. Donc là, c'est le sacrement de l'onction des malades. La deuxième année, c'était la croissance de l'intelligence, de la personnalité, ta place. Donc l'éducation, bien sûr, avec le sacrement de la confirmation, mais aussi la vie professionnelle, l'argent, l'engagement politique, etc. Enfin, un chrétien, il a sa place de témoin dans le monde. Et là, on a fait parler des artistes, on a fait parler un banquier, on a fait parler un éducateur, enfin, vous voyez. Et la troisième année, c'était le mystère de la vie spirituelle. C'est avec cette forte phrase de Bernanos, le monde contemporain est une conspiration contre la vie intérieure, contre le silence intérieur. Et donc, dire aux gens, rappelez-vous, cette phrase de Jésus, toi quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret. Aujourd'hui c'est dur d'ailleurs. On rentre dans sa chambre, il y a encore un téléphone, un ordinateur, on n'est pas capable d'avoir du silence. Et là c'était le sacrement du pardon. c'est-à-dire la miséricorde de Dieu vient au fond de toi pour régénérer tout. Et tout ceci a abouti à notre fête des 50 ans du Concile, donc où tout le monde était invité à Eurexpo, et 23 000 personnes, je crois, sont venues pour cette journée de très grande fête diocésaine, qui était la fête du Concile. Alors, si ce message est passé, et que l'Église, elle est en bonne santé quand elle est au pied des autres, quand elle est au service des autres, quand elle est une servante, là je suis extrêmement heureux. L'Église n'est pas en bonne santé quand elle s'occupe d'elle, quand elle s'occupe de ses rouages, de son organigramme, etc. Quand elle parle d'elle, je ne l'aime pas. Et je me dis, oh là là là, voilà qu'elle commence à faire du nombrilisme. Tandis qu'elle est véritablement elle-même, quand en fait, moi j'ai été missionnaire à Madagascar, je voyais une religieuse de Saint-Vincent de Paul dans des petits bleds du pays de l'extrême sud des Antandrouilles où il n'y avait pas d'eau, etc. Et elle était là à soigner la gale, à soigner la lèpre. Qu'est-ce que j'étais content. Alors cela offre pas la première page des journaux, jamais, mais elle est beaucoup d'amour offert, complètement gratuitement. Je suis là, je ne suis là que pour vous. Et ça, c'est sans prix, vous voyez, c'est au-delà de tout. Et c'est comme ça que l'Église est aimée. Et c'est ça que je voudrais être, moi. C'est-à-dire, je voudrais être vraiment un serviteur des gens. En fait, au fond, si vous voulez, je pense que c'est Dieu notre premier serviteur. Dans ce texte de 1 Thessaloniciens 5, il dit « Dieu, en vue du jour de l'avènement de Jésus, il nous sanctifie et il sanctifie l'homme tout entier. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu notre serviteur. Et il a envoyé Jésus qui est l'image véritable de Dieu. Et Jésus, ben justement, il a pris la forme du serviteur. Donc si toi, tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu vois bien que tu dois être une servante ou un serviteur. Ça va de soi. Pour moi, c'est un des plus beaux titres de l'Église, voilà, pour résumer l'ensemble.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, quand Jésus a lavé les pieds de Pierre, il n'a pas tellement apprécié. Et si ça avait été Philippe Barbarin à qui le Christ lavait les pieds, comment vous auriez réagi?
Je me cache derrière les apôtres parce que moi, je suis... Dans les textes de l'Évangile, vous avez un fait historique, ça s'est passé il y a 2000 ans. Mais c'est une parole éternelle. Et donc, elle est véritablement éclairante pour montrer l'attitude de tout le monde. Moi, je les regarde les uns derrière les autres, et je les aime de plus en plus, ceux qu'on connaît, comme Pierre, ou Judas, ou Thomas. Enfin, je les regarde comme mes frères, quoi. Et à l'intérieur d'une famille, on fait attention à ses frères et sœurs. Je pense que chacun d'entre nous, effectivement, c'est pour ça que votre question est belle, il est à l'intérieur de la personnalité de Marthe ou de Marie, en partie, hein. Enfin, il y a quelque chose de la grâce de tous ceux qui ont approché le Christ comme une constellation qui entoure le soleil. Vous voyez, le Christ, c'est le soleil du monde. Et tous ceux qui sont autour, en fait, il nous montre les différentes approches et les différentes manières d'être en relation avec Jésus. Alors, si j'aime bien Pierre, c'est peut-être parce que je me reconnais bien en lui, j'en sais rien, je ne saurais pas trop vous dire. Il est un peu épais, il est complètement retourné par le Christ, il est dans les mains du Christ, il est l'objet de la miséricorde du Christ, il reçoit sa force et sa puissance du Christ. Dans les Actes des Apôtres, les gens disent, comment se fait-il qu'un gars pas tellement cultivé, là, il parle avec une telle assurance. Et Pierre, il leur dit, ben oui, voilà, quoi, c'est comme ça. Enfin, de toute façon, rassurez-vous, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, donc nous ne nous tairons pas. Vous pouvez nous mettre en prison si vous voulez, mais ce n'est pas un problème pour nous. Il y a quelque chose là-dedans d'une force dans les Actes des Apôtres. Par exemple, on voit souvent Pierre et Jean. Ils sont là tous les deux ensemble. Pierre, il commence en disant « mais nous ». Et puis finalement, il dit « je ». Comme si l'autre n'existait plus. Il dit « mais quand même, tu es un mufle ». D'abord, l'autre, il a eu quand même un peu plus de noblesse que toi dans les moments rudes et ténébreux de la passion. Mais il est comme ça. Et ça ne sonne pas faux. Parce qu'au fond, c'est son tempérament. Il n'y a pas que des défauts dans son tempérament. Il y a aussi une grâce de Dieu qui est à l'œuvre malgré les défauts. Je prends l'exemple d'un que j'aime beaucoup entre tous, c'est Thomas. Le nombre de gens, vous savez, qui me disent ah, vous savez, moi, mon père, je suis comme Saint Thomas. Hein. C'est-à-dire, tant que j'arrive pas à des preuves, j'y crois pas. Ah, vous êtes comme Saint Thomas. Ben, venez, je vais vous montrer. Alors, je lis avec l'Évangile. Et je dis, vous voyez, quand toute la bande de poltrons qui était à côté de Jésus lui dit ne va pas à Jérusalem au moment de la maladie et la mort de Lazare dans Jean 11, ils lui disent ne va pas à Jérusalem parce que là-bas, il y a beaucoup de gens qui t'en veulent. Hein. Donc ça va chauffer. Thomas se redresse et puis il dit « Allons avec lui et mourons s'il le faut ». Je dis « Vous êtes comme Jésus, vous êtes prêt à mourir avec Jésus ». Ben c'est, vous avez bien raison d'être comme Thomas. D'ailleurs, pendant que la bande de poltrons, dans l'épisode que vous citez, vous voyez, ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient le soir de Pâques car ils avaient peur des Juifs. Il n'y en avait qu'un seul qui était dehors. C'était un courageux. Vous êtes comme Saint Thomas, vous avez le courage d'aller au-devant des difficultés, des contradictions et de donner le témoignage du Christ. Et Thomas, il était dans les rues alors que les autres, ils étaient calfeutrés dans leur local communautaire. Et il va au-devant de l'adversité, au-devant de la difficulté. C'est certainement quelqu'un qui n'a pas peur. Eh bien, vous avez raison de vouloir être comme Saint Thomas.
C'était le cardinal Philippe Barbarin, l'archevêque de Lyon. Un entretien signé donc Catherine Aubin. Ainsi prend fin ce magazine. Retrouvez-nous sur internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à l'adresse Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, où que vous soyez.